Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'envers du décor du travail parlementaire, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme des nouvelles de Nicolas Dandrimont, avec qui nous échangerons sur Debian et Software Retouch, et des nouvelles de Laurent Costi sur les associations dans la période de confinement. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h à samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et sur internet, c'est 24h sur 24. La radio dispose également d'une application Cause commune pour téléphone mobile, et la radio diffuse désormais en DAB+, sur 24. Le DAB+, c'est la radio numérique terrestre, avec notamment un meilleur son, et c'est le terme officiel choisi par le CSA. Pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAB+. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé d'affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes mardi 2 juin 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme détaillé de cette émission. Nous commencerons donc par prendre des nouvelles de Nicolas Dandrimont, membre de la communauté Debian et qui travaille sur le fabuleux projet Software Retouch. D'ici 15-20 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le travail parlementaire. Alors nous devons recevoir la députée Paula Forteza, mais étant finalement indisponible, nous aurons le plaisir de recevoir un de ses collaborateurs parlementaires et libriste convaincu, Christian Quest. En fin d'émission, nous prendrons des nouvelles de Laurent Costi, vice-président de l'April, co-animateur du groupe Libre Association, et nous ferons un point avec lui sur comment les associations ont dû même s'adapter pendant la période de confinement. À la réalisation de l'émission William Agasvari, tout de suite, place au premier sujet. Donc, normalement, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Dandrimont. Est-ce que tu es avec nous?
Oui, bonjour.
Tu nous entends? Bonjour, comment ça va déjà?
Eh bien, tout va bien, avec ce beau temps et les oiseaux qui chantent dehors, c'est assez chouette.
Oui, ça fait du bien au moral, c'est sûr. Alors, on avait eu le plaisir de te recevoir d'une émission sur la distribution de GNU Linux, le 30 avril 2019, on mettra le lien sur la page de l'April, pour nous parler de Debian, puisque tu es très engagé dans la communauté de cette distribution libre. Tu as même été président de Debian France, si je me trompe. Mais est-ce que pour nos auditeurs auditrices qui n'ont pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît?
Donc Nicolas Dandrimont, je suis développeur de logiciels libres depuis longtemps maintenant, je sais pas, ça va faire 12 ans à peu près. Je suis pas mal actif effectivement dans Debian et je travaille en tant qu'ingénieur dans le projet Software Heritage, qui est un projet d'archivage de tout le patrimoine logiciel de l'humanité.
Belle ambition en tout cas. Du coup, j'imagine que le confinement a dû t'impacter potentiellement, comme tout le monde d'ailleurs, professionnellement dans le cadre de ton travail sur Software Heritage, puis dans le cadre de ton engagement associatif dans la communauté de Debian. Est-ce que tu peux peut-être, soit en commençant par l'un ou par l'autre, comme tu le sens, nous expliquer peut-être comment ça a pu se passer cette période pour toi?
Le changement principal, c'est bien sûr la distanciation physique et le fait que ce soit très compliqué de se rencontrer physiquement. Alors, c'est moins vrai sur Debian, qui est quand même un projet où les gens travaillent en ligne, et donc on a l'habitude de travailler de manière désynchronisée et à distance, plus effectivement pour mon travail au jour le jour sur Software et Tape, c'était assez bizarre du jour au lendemain de se retrouver isolé chez soi, sans pouvoir discuter avec ton équipe à la pause café, tout ça, donc c'était assez... On va dire que ça nous a mis la tête la première dans une modalité complètement remote. Et c'est quelque chose qui va continuer, je pense, au moins pendant quelques mois, puisqu'on n'a pas. Enfin, il y a assez peu de chances qu'on retrouve nos bureaux avant la fin de l'été, si ce n'est plus tard, quoi.
Du coup, oui, je te propose qu'on commence. Par Software Heritage, du coup, puisque tu abordes la question, enfin, ouais. Puisqu'on aborde là-dessus. Alors, du coup, oui, le télétravail, c'est quelque chose, du coup, vous avez été amené à télétravailler. J'imagine que du fait de vos profils de travail, c'était techniquement pas trop compliqué, mais tu pourras me corriger. Et c'est quelque chose que vous avez déjà l'habitude de faire, ou ça a été justement provoqué dans la situation?
Alors, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire à la marge, c'est-à-dire qu'on est actuellement, en tout cas, tous les membres de l'équipe travaillent sur le même site, hein, et du coup, on se retrouve au bureau tous les jours en temps normal. Mais là, effectivement, on s'est retrouvé à passer en distant par défaut, ce qui est, je pense, une... Enfin, c'est comment dire. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est assez clair que c'est important pour un projet comme le nôtre qui a une portée mondiale et qui fait un gros travail de collaboration, de faire en sorte que nos échanges puissent être suivis même à l'extérieur. Tout notre travail, il est ouvert à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on veut encore plus favorisé à l'avenir. On a commencé, par exemple, là, à travailler sur l'archivage d'une forge de logiciels qui s'appelle Bitbucket, qui a annoncé il y a quelques mois qu'ils allaient fermer au mois de mars. Alors ils ont repoussé avec la pandémie cette fermeture. Mais nous, on a travaillé avec la NLNet Foundation, qui est une fondation internationale pour le financement, et avec Octobus, qui est une entreprise française pour la réalisation du travail, à l'archivage de Bitbucket, de manière en collaborant du coup avec une équipe extérieure, ce qui est une nouveauté pour nous, quoi.
Ok. Non, c'est important. Tu as déjà évoqué, je pense que tout le monde n'a pas forcément en tête ce qu'est Software Heritage, et peut-être que ça pourrait éclairer un petit peu justement ces informations que tu nous donnes. Alors, on avait reçu Roberto Di Cosmo, hein, qui a l'initiative du projet en février 2019. Donc, à nouveau, on mettra l'émission, le lien vers l'émission. Parce que c'est quand même un projet, enfin, je pense qu'il faut quand même souligner à quel point il est démentiel et fondamental dans son principe. Est-ce que tu pourrais peut-être nous le vendre un petit peu, nous rappeler un peu ce que c'est dans les grandes lignes, et puis peut-être plus concrètement, donc on sait que le projet est porté au sein de l'INRIA, donc c'est vraiment un projet de recherche. Je ne sais pas combien vous êtes maintenant à bosser dessus. Est-ce que tu pourrais nous donner ces quelques éléments pour remettre dans le contexte?
Bien sûr. Donc, Software Heritage, oui, j'aurais certainement dû le mentionner au début, c'est la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel. Donc, l'objectif du projet, c'est de construire une archive pérenne et intégrale de tout le code source des logiciels développés par l'humanité, que ce soit les logiciels qui sont développés aujourd'hui sous la forme de logiciels libres, ou des logiciels plus anciens que l'on souhaite archiver pour la postérité. Et donc, en fait, notre projet, c'est effectivement une plateforme qui est impulsée par INRIA. Donc, INRIA, c'est le laboratoire de recherche, le grand laboratoire de recherche publique en informatique en France. Mais ce projet, il a vocation internationale. Il a vocation aussi à sortir de juste un projet de recherche et à être un projet qui est utilisé évidemment par la communauté de la recherche, mais aussi par l'industrie pour ses besoins, et puis même en tant qu'objet d'héritage culturel de notre société, quoi.
Oui, clairement, en tant que libriste, défendant l'éthique du logiciel libre, on voit immédiatement à quel point finalement se garder ces archivages pour finalement maintenir la connaissance accessible est extrêmement important. Et peut-être même on peut dire, enfin, cette période de pandémie où les outils de communication quand même ont joué un rôle fondamental, on voit peut-être là encore une fois l'importance d'avoir des outils de qualité dans la durée, sur lesquels peut-être on pourra reconstruire. Alors peut-être que je suis un peu utopiste dans la manière dont je le décris, mais il me semble que c'est un nouvel révélateur de l'importance d'avoir justement ce genre de bibliothèque.
Non, je pense que tu as tout à fait raison, et je pense que c'est pas utopique. On a effectivement, et cette situation de pandémie nous l'envoie en pleine face en fait. On a besoin de partage des connaissances de manière massive pour la collaboration de la société tout entière. Et pour faire ça, on a besoin de se préparer pour le futur et de construire des infrastructures qui soient transverses, pérennes, collaboratives, sur lesquelles les gens peuvent collaborer de manière ouverte. Et par exemple, nous, Software Heritage, là, on a pu avoir des retours de certaines personnes qui nous disent, on a retrouvé des logiciels qui étaient des objets de recherche il y a 5 ans, dont l'hébergement a disparu, mais qui aujourd'hui reprennent un intérêt nouveau. Et donc c'est le cœur de notre mission et de notre volonté, quoi.
Oui, donc il y a quand même eu un impact de cette pandémie, des enjeux qui en ressortent pour faire vitesse du coup. Alors toi, pour revenir peut-être à ton parole, comment ça s'est passé, pour revenir un peu à cette idée du télétravail, parce que ça a un peu été une arlésienne de nos chroniques, un peu prise de nouvelles, comment ça s'est passé pour toi donc le télétravail par rapport à, est-ce que c'est vraiment un truc que tu avais même à la marge l'habitude de faire, que tu apprécies ou au contraire que vraiment tu n'aimes pas, comment tu as pu mettre par rapport à ton travail sur ce projet?
Alors, le télétravail pour moi, c'était vraiment quelque chose de, enfin que j'ai jamais fait entre guillemets sérieusement. C'est-à-dire que j'ai pas d'installation chez moi correcte pour faire le télétravail en temps normal, quoi. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir me déplacer chez ma compagne dans un espace plus grand dans lequel on a pu s'organiser pour avoir chacun des espaces pour travailler et puis sans s'embêter les uns les autres. J'ai récupéré du matériel de mon bureau et donc j'ai en fait reconfiguré mon bureau chez moi. Mais c'est, enfin, comment dire, si on passe à un mode plus pérenne de travail à distance, de télétravail, il est clair que toutes les bonnes pratiques d'ergonomie, de séparation du privé et du travail, aujourd'hui, elles sont pas vraiment mises en place. Et donc, on est toujours sur du, entre guillemets, télétravail d'urgence et pas sur du pérenne, quoi.
Ok, effectivement. Et donc, pour la qualité du travail, je veux dire que ça peut avoir un impact. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur Software Heritage? N'hésite pas à faire de la pub ou sinon on peut passer à l'autre sujet qui t'intéresse.
Ouais, j'ai une petite mention. Donc, je parlais de notre collaboration avec l'équipe d'Octobus pour l'archivage de Bitbucket. On a d'autres bourses qui sont ouvertes grâce à la fondation Sloan. Et donc, si des gens sont intéressés à collaborer avec nous pour améliorer la couverture de notre archive sur les codes sources de logiciels, il y a sur notre site web, sur notre blog softwareheritage.org, tout attaché, un appel à projet qui est ouvert du coup pour les gens qui seraient des développeurs et qui seraient intéressés à venir nous aider.
Ça marche, on ne manquera pas de relayer, puis je te redemanderai les liens qu'on pourra mettre sur la page consacrée à l'émission pour que les personnes les retrouvent facilement, ainsi que voilà, t'as cité Bitbucket, Zen Foundation, Octobus, on pourra mettre les liens là-dessus. Et en tout cas, le message est passé. Du coup, je te propose de parler de Debian, qui a en plus une actualité ce week-end, hein, les mini-deb conférences online. Donc c'était une nouveauté, il me semble, où j'ai peut-être mal lu et que j'imagine que c'est en répercussion venant de la situation de pandémie et de distanciation.
Alors, c'est, on va dire que oui, donc c'était une première effectivement. Donc, le projet Debian, c'est un projet qui vit sur Internet. C'est un projet qui est complètement distribué. Les gens sont aux quatre coins du monde et contribuent au projet. Et on a régulièrement des événements en présentiel, des DevConf, donc conférences Debian, et on a des mini DevConf qui sont des mini conférences Debian qui ont lieu sur un week-end à peu près, qui sont des événements de plus petite nature où les gens peuvent effectivement, donc développeurs, utilisatrices et tous les gens intéressés par Debian peuvent venir et voir ce qui se passe dans la distribution. Il y a ça fait un peu plus d'un an qu'on discute d'améliorer la participation à distance à ces événements, parce que d'un point de vue écologique, par exemple, faire voler la moitié de la planète vers un site commun, ça a un impact très important. Il y a, peu importe le pays que tu choisisses pour héberger un événement, tu empêches des gens de s'y déplacer pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, etc., etc. Et donc, ça fait un bon moment qu'on se dit, ce serait intéressant de faire des événements un peu plus distribués, un peu moins physiques. Et là, effectivement, on a pris un peu cette, c'est le travail d'une équipe j'ai juste participé à la marge à ça. On a pris un peu la balle au rebond de cette situation de pandémie mondiale pour organiser notre première mini DevConf online. Et donc, pendant le week-end, là, qui est passé, des développeurs, des développeuses se sont rassemblés et ont fait des présentations sur leur travail dans Debian et autour de Debian, avec des interactions en ligne à distance. Voilà. Et donc c'était une première, je pense que c'est un succès. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est des conférences qui étaient plutôt axées développeurs. C'est vrai que les mini DevConf, elles ont plus de discussions techniques en profondeur que la DevConf, la grosse conférence DevConf. C'est en anglais aussi, donc c'est pas forcément très accessible à tout le monde, mais c'est des formes d'interaction et de conférence qu'on est en train de développer, quoi.
Bah super, tu devances une question d'un auditeur qui nous pose exactement ces questions-là. Est-ce qu'il n'y aura pas une volonté d'inclure des conférences plus grand public vu les barrières techniques, le niveau plutôt de connaissances techniques exigées et les barrières potentielles de la langue? Donc, écoute, tu devances du coup la question. Et toi, quel bilan en tires-tu? Est-ce que c'était du coup, c'était riche pour toi? D'une part, j'imagine qu'il y avait un peu d'enjeux techniques peut-être à mettre ça en place, et puis après, dans la qualité, est-ce que tu as sorti un impact? Est-ce que c'était finalement la même qualité que tu as pu retrouver, toi, dans des mini DevConf précédentes? Qu'en tires-tu, finalement?
Alors, c'est assez... d'un point de vue technique, c'était assez intéressant, parce que l'équipe vidéo, du coup, s'est concentrée sur l'utilisation d'outils libres à 100%. Avec du déploiement à ma connaissance sur Debian. Du coup, c'était un bon test peut-être pas un test de stress, mais au moins un test d'intégration de tous les outils. Donc il y avait de l'IRC pour la discussion en direct, il y avait du Jitsi pour la prise de parole des conférencières et conférenciers. Et effectivement, donc on avait un petit peu d'infrastructure à mettre en place. Ça s'est plutôt bien intégré à notre système habituel de diffusion en direct. Donc ça, c'était assez confortable. Après, effectivement, on va se retrouver à devoir faire la grande DevConf, donc celle qui dure une semaine complète, aussi à distance, a priori. La décision finale a été prise il me semble, cette semaine. Et du coup, là, on va avoir un vrai test, effectivement, des modalités d'interaction. Parce que toutes ces rencontres entre développeurs, ça a un gros impact sur la qualité de la collaboration entre, entre ces gens qui sont tous distribués à droite à gauche sur la planète, parce que c'est des événements où tu peux avoir des conversations avec une bande passante très élevée de manière synchrone. Donc ça permet de résoudre tout un tas de problèmes que tu peux avoir si tu es à distance. Pour ça, effectivement, on a réussi à avoir une espèce de... on appelle ça en anglais une hallway track. Donc c'est un peu la série de conférences du couloir. Donc où en gros, c'est un salon de discussion libre où tu peux discuter de choses et d'autres. Ça remplace pas des interactions de vive voix, mais c'était quand même assez chouette de voir tous les, une partie des copains et des copines en direct.
J'imagine. Ouais. Alors du coup, ça sent, tu parles de cette discussion informelle à distance. Est-ce que vous aviez anticipé, parce qu'il y a un enjeu, j'imagine, de modération potentiellement, pour que ça reste audible, pour que les personnes qui souhaitent s'exprimer puissent le faire, ce qui est déjà un enjeu en présentiel physique, parce qu'on sait qu'il y a des personnes pour qui la prise de parole est peut-être moins évidente, d'autres qui ont tendance à prendre plus de place. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé? Est-ce que vous avez essayé de laisser faire les choses naturellement? Et comment ça s'est passé du coup de ce point de vue?
Alors dans les on avait pour en tout cas pour ce qui est des conférences qui étaient planifiées, on avait une seule discussion de groupe. Pour cette discussion-là, en fait, on avait séparé les intervenantes et intervenants dans un chat Jitsi séparé avec un mot de passe. Ils se modéraient entre eux. On n'a pas fait spécifiquement de système pour améliorer l'équité dans la prise de parole. C'est quelque chose qu'on fait pas non plus en vrai, et c'est, je pense, un problème en vrai aussi. Mais on n'a pas encore travaillé sur des solutions pour ça, malheureusement.
Après, par itération, j'imagine qu'on améliore, c'est un peu aussi l'intérêt d'améliorer à chaque fois, quoi. D'être au moins vigilant sur les potentiels problèmes. Alors, on me pose une question sur le salon Libre à vous de Cause Commune. Les confs ont-elles été captées? Alors, j'imagine que oui, et seront-elles visionnables bientôt?
Alors, les conférences ont effectivement été enregistrées en direct. Je pense qu'il y a déjà une partie des conférences qui sont disponibles sur notre archive vidéo. J'ai vu des discussions parmi les gens de l'équipe vidéo sur la publication. Si c'est pas le cas, ça sera le cas, je pense, d'ici la fin de la semaine. Et ce sera aussi publié sur notre instance de PeerTube et sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui utilisent toujours ça.
Voilà, précision à la PeerTube qui est... Alors, j'aime pas forcément le terme alternative, mais donc un système, voilà, de partage de vidéos qui avait été mis en place, donc basé sur du logiciel libre, mis en place par Framasoft. Donc c'est bien, toujours bien aussi de s'appuyer sur ces outils, même si on sait qu'ils ont pas la même portée, pardon. Il faut les faire vivre, justement, et donc c'est un super projet. Écoute, je vois que le temps avance. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aurais aimé dire sur Debian, MiniDevConf, sur un autre sujet qui tient à cœur et qui a pas été évoqué?
Sur Debian, là, pendant cette mini devconf, il y a une tendance qui se confirme, qui est que le projet a de plus en plus conscience de sa difficulté à recruter de nouvelles bonnes volontés, et commence à travailler sérieusement pour améliorer l'intégration de nouvelles contributrices et de nouveaux contributeurs. Donc si vous avez envie de contribuer, quel que soit votre niveau de compétence, il faut surtout pas hésiter à vous rapprocher des associations locales. Il y a une association Debian France qui est active en France. On a prévu une mini devconf au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que la situation sanitaire permettra qu'elle ait lieu dans les meilleures conditions. Et donc, je vous invite à vous rapprocher effectivement de Debian France si ça vous intéresse de contribuer. Voilà.
Le message est de nouveau passé. Et il me semble qu'en plus Debian, vous avez quand même historiquement une vraie vigilance sur créer des espaces accueillants, sécurisants pour toutes les types de, enfin pour toutes les personnes en fait, quelle que soit vraiment leur situation, voilà, pour les femmes notamment, pour les personnes, je sais pas, transgenres, pour les personnes racisées, enfin il me semble qu'il y a quand même une vigilance de ce point de vue. Peut-être que je me trompe, mais
Non, tu as raison, c'est un travail de longue haleine, mais c'est, enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a des améliorations visibles de mois en mois sur ce sujet.
Alors, dernière question, mais lors de métrique, et puis après, on te laissera retourner. Bon, je vais arrêter de bafouiller. Donc, c'est pas demande combien de confs et combien d'intervenants il y a eu ce week-end.
Alors, ce week-end, il y a eu une dizaine de conférences et je pense une quinzaine d'intervenantes et d'intervenants en tout. Mon comptage des personnes qui ont visionné le stream, c'est autour de 230-250. Alors, c'est en nombre d'adresses IP uniques. Donc, voilà, ça, c'est une surestimation du nombre de personnes qui ont vu les conférences en direct.
Entendu. En direct, ça me paraît quand même assez honorable pour une première.
C'est assez impressionnant vu la communication limitée qui a été faite autour de la conférence. C'est une très bonne surprise.
Bon, bah, parfait, vous le méritez. Écoute, bah, Nicolas, un grand merci Nicolas d'Antrimon, donc de Debian et de Software Heritage. Un grand merci d'avoir pris ce temps avec nous et je te souhaite une excellente fin de journée.
Merci beaucoup de m'avoir reçu et bonne émission.
Merci. Nous allons faire une pause musicale, on passe au sujet suivant. Donc nous allons écouter Intro par Quantum Jazz et on se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
D'écouter Intro par Quantum Jazz, Intro bien sûr étant l'introduction de leur excellent album, disponible donc sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez donc l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site Cause Commune FM. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Donc, nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte donc sur le travail parlementaire. Alors, comme je vous le disais, nous devons recevoir la députée Paula Forteza, notamment connue pour avoir été rapporteure sur la loi de transposition du règlement général de la protection des données. Et étant finalement indisponible, nous avons le plaisir de recevoir un de ses collaborateurs parlementaires, Christian Quest. Alors Christian est notamment connu dans les milieux libristes pour sa forte implication dans les plans de projet OpenStreetMap. Nous l'avions d'ailleurs reçu pour en parler lors de notre émission du 24 décembre 2019. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de comprendre, comme je vous le disais, l'envers du décor du travail parlementaire. voilà, comment fonctionnent les équipes des députés, l'importance centrale du travail en commission. Hein, c'est vrai qu'on voit surtout les travaux, enfin, on a l'image de l'hémicycle, mais c'est vraiment en commission que se fait le cœur du travail. Bah, le travail de la préparation des amendements, les relations avec les représentants d'intérêt, la prise en l'état, les groupes politiques, choses importantes. Donc le sujet est vaste, donc on va essayer de couvrir un maximum de terrain dans le peu de temps que nous avons finalement. Et vous n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Et donc j'ai le plaisir d'être avec Christian Quest. Bonjour Christian.
Bonjour.
Tu m'entends ? Alors tu es donc collaborateur parlementaire de la députée Paula Forteza. Bon, déjà, depuis combien de temps pourrait être intéressant, mais je pense que c'est aussi une bonne manière à commencer. La question du sujet du travail parlementaire, c'est quoi un collaborateur parlementaire ? Quel est son rôle ?
Oh, il peut avoir plein de rôles. C'est d'assister en fait le parlementaire dans sa mission de représentant du peuple à l'Assemblée. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a évidemment du travail de secrétariat, ce qui est assez évident, gérer l'agenda, répondre aux sollicitations, répondre aux emails. Et puis il y a tout le travail législatif, d'études des textes qui arrivent, voire même de propositions de nouveaux textes, et donc tout ce qui est amendement et tout ça.
Alors vous êtes combien dans votre équipe, par exemple, de collaborateurs ?
On est actuellement, on est 5. On a des stagiaires aussi. Et bon, voilà, c'est à peu près la moyenne, je pense. Peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne.
Alors il me semble que on dit souvent que l'équipe, enfin, qu'un bureau de parlementaire, c'est presque une TPE-PME. Parce qu'il me semble qu'ils sont autonomes dans leur choix, ils se servent de ce qu'on appelle leur réserve parlementaire, tu me corrigeras si je me trompe. Donc il y a une certaine autonomie de ce point de vue-là. Recrutive, en somme. Après, ils ont un contrat de travail, vous avez un contrat de travail classique, j'imagine.
Alors, au niveau du financement, il y a ce qu'on appelle l'AFM, l'allocation de frais de mandat, donc qui permet de subvenir à certaines dépenses. Il y a une enveloppe qui est prévue pour la rémunération des collaborateurs qui est d'environ 10 000 euros, tout compris. Et ensuite, oui, on est sous contrat, on a un contrat assez particulier, c'est un CDI, mais donc à durée indéterminée, mais déterminé par le mandat. C'est-à-dire que si le parlementaire perd son mandat, si il démissionne ou si, par exemple, il devient ministre, on perd notre job.
Oui, ça fait penser que si vous trouvez quelque part, l'entreprise que représenterait ça, finalement, disparaît, ou le contrat, le travail par avec, il y a une certaine cohérence. Alors du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de savoir, alors ça ne va pas être le cœur de notre échange, mais bon, puisqu'on est une association qui promeut le logiciel libre, la question des outils techniques, qui ont, j'imagine, une place importante dans le travail, dans votre travail quotidien, là, à nouveau, les parlementaires doivent être assez autonomes, j'imagine, dans ces choix. Vous êtes complètement autonomes. Alors, là, on imagine que les services de l'Assemblée ont des services techniques. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils vous proposent des outils ? Est-ce que vous êtes justement autonomes ? Est-ce qu'il y a des rapports avec eux ? Comment ça se met en place, tout ça ?
Alors l'Assemblée offre tout un ensemble de services aux parlementaires, donc met à disposition du matériel, met à disposition aussi une infrastructure, donc de la connexion réseau, des services de messagerie, des services de type partage de fichiers, enfin ce genre de choses. Il y a aussi tous les services internes de l'Assemblée, de la gestion même de l'Assemblée, c'est-à-dire l'agenda, toute la gestion législative des textes, on va dire l'intranet de l'Assemblée. Mais on a une autonomie, évidemment. On n'est pas du tout obligé de passer par les services que propose l'Assemblée, par exemple, en termes d'outils. On peut très bien déployer ses propres outils si on a des besoins qui ne sont pas satisfaits ou qu'on n'est pas satisfait de ce qui est proposé.
Et je connais malheureusement un peu le sens de la réponse, mais j'imagine que la plupart des services proposés ou utilisés au sein de l'Assemblée ne sont pas tous du logiciel libre.
Oui, pas tous, c'est un euphémisme. Il n'y a pas beaucoup de logiciels libres dans ce qui est, dans ce qui est déployé. C'est essentiellement des outils Microsoft. Donc, c'est de l'Outlook, c'est du Webmail Outlook, Exchange, etc. Voilà, donc, c'est pas l'idéal pour quelqu'un comme moi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai ma machine et je suis autonome.
Alors, Paula Fort fait partie des députés qui sont plutôt estampillés, on va dire, spécialistes des questions relatives aux enjeux numériques. Et elle est notamment connue pour utiliser du logiciel libre, hein, il me semble, parmi les outils qu'elle utilise. Donc, je crois que son site est sous WordPress. Elle a un agenda qui est librement accessible et sous Nextcloud. Il me semble que tu m'as expliqué que c'est toi qui as fait justement mis en place ce système. Donc c'est un peu aussi des choses par exemple, et ça c'est on peut le saluer bien sûr. Est-ce que du coup il y a eu des difficultés à mettre ça en place? Est-ce que ça a peut-être fait des émules parmi d'autres parlementaires? Comment ça se passe?
Alors, non, il n'y a pas eu de difficulté à mettre en place, vu qu'on est autonome, on loue un serveur dédié que j'administre complètement, sur lequel j'ai déployé les outils dont j'avais besoin. Mon prédécesseur avait fait de même, avait utilisé des solutions un petit peu différentes, mais toutes libres. C'était vraiment c'est dans l'ADN de Paula Forteza d'utiliser des outils libres et open source. Donc, et d'en faire la promotion aussi. Donc, on a vraiment utilisé et exploré dans les outils qui existent ceux qui peuvent être bien adapté à un travail quotidien, un travail en confidentialité, en sécurité, etc. Parce que ça, c'est des points quand même qui sont assez importants quand on parle du Parlement quand même.
Alors du coup, tu parlais d'autonomie, des outils, et on évoquait lorsqu'on avait discuté un peu avant l'émission que la difficulté qu'il peut peut-être y avoir, tu peux nous expliquer un peu comment ça se résout ou pas, d'interconnexion, puisqu'il y a besoin de communiquer entre eux pour passer des informations. Vous utilisez certains outils qui ne sont pas forcément les mêmes des autres. Est-ce que ça peut y avoir des frictions par rapport à ça?
Alors, il y a des frictions qui peuvent être liées à des problèmes d'interopérabilité, et puis il y a aussi des frictions qui viennent des règles de sécurité du système d'information de l'Assemblée, qui fait que, par exemple, même si on peut gérer un agenda avec les outils que nous propose l'Assemblée, il est impossible de le partager à l'extérieur. On est du coup obligé d'avoir un agenda qui ne soit pas géré par ce que nous propose l'Assemblée, parce qu'on ne pourrait pas le partager en fait. Donc il y a des choses comme ça qui tiennent soit de l'interopérabilité, soit de règles de sécurité qu'on peut comprendre, mais qui du coup sont un peu contraignantes quand on veut être un petit peu plus ouvert que la moyenne.
Alors en discuter, et peut-être la période du confinement, enfin cette situation de pandémie a amené son lot de difficultés et la nécessité d'avoir des outils de visioconférence, j'imagine d'échange de textes, etc. Peut-être là en plus ça a heurté des manques qu'il pouvait y avoir. Ça a sans doute été un révélateur. Comment toi tu l'as perçu, et notamment plus sur un bagage technique qui t'a offert, j'imagine, un regard particulier sur ce sujet?
Alors, on a déjà l'habitude de faire du télétravail. Moi, à titre personnel, je fais déjà une grande partie de mon travail à distance. Donc, ça ne m'a pas beaucoup, beaucoup perturbé, sauf le fait de ne pas voir ses collègues, ce qui est quand même, au bout d'un certain temps, un petit peu gênant. Mais donc, on était assez habitué à travailler d'une façon très dématérialisée et qui ne pose pas de problème avec du télétravail. On a l'habitude d'utiliser des pads, on a l'habitude d'utiliser ce genre d'outils, donc ça ne nous a pas vraiment posé de gros problèmes. J'ai déployé des petits outils nouveaux qu'on a profité un peu de ce temps atypique pour tester de nouveaux outils, par exemple CryptPad, que je ne connaissais pas trop et que j'ai beaucoup apprécié. donc un logiciel qui est développé essentiellement en France, donc c'est intéressant de le signaler aussi. Donc voilà, un pad sécurisé avec du chiffrement de bout en bout. Et plus qu'un pad, on peut avoir du tableur, ce genre de choses. Donc on a aussi utilisé et abusé de Jitsi. D'instances publiques, il y en a eu pas mal qui ont été installées, je pense aux instances de Scaleway par exemple, mais il y a aussi la fondation d'entreprise Free qui en a installé, il y en a d'autres. On a utilisé ces outils-là qu'on avait déjà un peu l'habitude d'utiliser, mais là on les a utilisés beaucoup plus régulièrement, ça c'est sûr.
Justement, tu parles d'outils, Creepad, Jitsi, on avait fait des émissions avec les personnes qui gèrent, qui pilotent un peu ces projets, les émissions 61 et 63 pour être précis, mais voilà, on mettra les liens sur notre page pour les personnes qui souhaitent creuser la question. Merci pour ces précisions. Je pense qu'on avance et qu'on passe peut-être un petit peu à ce qui va faire le sel du travail parlementaire, c'est la production finalement de législatif, la production de la loi, qui est quand même un rôle déterminant de l'Assemblée. On a évoqué l'importance du travail en commission. Donc, alors, il va y avoir des projets de loi, des propositions de loi, des propositions de texte. Voilà, comment vous les accueillez? J'imagine vous répartissez le travail en fonction des spécialités de chacun. Vous allez produire des amendements, chercher à comment vous attaquez un texte en fait, pour dire les choses de manière très générale.
Alors oui, tu as raison de préciser qu'il y a une grosse partie du travail à l'Assemblée qui n'est pas le travail en hémicycle. L'hémicycle, c'est la partie visible de l'iceberg, mais l'iceberg, il est gigantesque en dessous. Alors le choix par rapport aux textes qui arrivent sur lesquels on va beaucoup plus s'investir, travailler, il y a tellement de textes qui sont mis à l'ordre du jour que c'est extrêmement difficile, sauf à faire un travail superficiel, de s'exprimer sur tous les textes. Donc, il y a des textes sur lesquels, naturellement, certains parlementaires ont plus d'appétence et vont du coup beaucoup plus s'investir parce que c'est un sujet qu'ils connaissent bien, c'est un sujet qu'ils maîtrisent. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de travail, des choses beaucoup plus fouillées. C'est ça qui fait la qualité du travail de construction de la loi. C'est évidemment quand des gens connaissent certains sujets, ça évite d'avoir des amendements de principe ou de posture pour avoir des choses un peu plus techniques qui vont dans des détails qui peuvent être parfois très importants. Une virgule mal placée dans un texte de loi peut en changer son sens, donc il faut être très très attentif à la façon qu'on a d'écrire, mais aussi à la façon que les autres ont écrit certains textes pour dire attention, là ça ne va pas, il ne faut pas que ça soit écrit comme ça, il faut que ça soit écrit autrement. Donc ça c'est un travail énorme en commission, mais même en amont, parce qu'il faut les travailler, les préparer, ces amendements, les répartir, lister un petit peu tout ce qui a besoin d'être revu dans le texte qui est proposé, et le faire en collaboration avec d'autres parlementaires avec qui on travaille régulièrement.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Justement, ce qu'on voit, donc, la travail, les textes sont inscrits à l'ordre du jour. La commission saisie au fond, parce qu'il y a plusieurs commissions sur les sujets. Bon, la commission qui va saisir du texte, c'est là où il va y avoir les premières réunions, on va dire, de travail. Mais même en amont, tout cela se prépare, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup, ça demande énormément de préparation. Paula Forteza, elle est membre de la commission des lois, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des spécificités? On sait que c'est une commission qui est quand même assez importante. Elle touche notamment à des textes importants du point de vue de l'April. Voilà, il me semble tout ce qui est droit d'auteur, je confonds avec le niveau européen, pardon. Est-ce qu'il y a des spécificités sur ce travail en commission des lois?
Alors, c'est pas trop mon domaine, donc je vais pas pouvoir beaucoup vous renseigner sur la partie purement légie. Je sais qu'il y a certains sujets qu'on, en fonction du type d'amendement et du type de sujet, c'est pas quelque chose qu'on peut voir dans n'importe quelle commission. Donc, un député ne peut pas siéger dans un grand nombre de commissions non plus. Il a un nombre de, enfin, il ne peut pas être partout, ni par volonté, ni par définition. Il y a des choix, des attributions qui sont faites. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a un travail entre les députés, parce que si un député doit faire avancer un amendement dans une commission, alors que c'est une commission à laquelle il ne fait pas directement partie, il va le faire soutenir par quelqu'un d'autre, etc. etc. Donc il y a tout ce travail un peu d'équipe, et ça n'est pas qu'un travail en solo, le travail d'un député. Hein.
Oui, c'est ça où je voulais en venir, et je l'ai très mal exprimé aussi dans ce travail en amont. Alors, il y a la partie rédactionnelle qui est très importante, déjà rédactionnelle pour faire des propositions d'amendement, prendre connaissance des autres et essayer de voir s'il y a des propositions similaires en termes d'arrangement. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail de relation, de créer des rapports de force, de s'organiser. Comment ça s'organise, ça? J'imagine qu'il y a des contacts plus ou moins formels entre les députés. Il y a réunions préparatoires, sans doute au sein des groupes aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire?
Oui, quand il y a des nouveaux textes, le texte il est analysé par le groupe pour voir un petit peu quels sont les points de principe habituels du groupe par rapport au texte, pour voir ce qui a besoin d'être rectifié, d'être amélioré, d'être peaufiné. Comme je disais, vu que les parlementaires ne sont pas dans toutes les commissions qui vont étudier un texte, ils peuvent avoir besoin d'un collègue qui va porter des amendements en commission il y a vraiment ce besoin de fonctionnement entre les députés, ce qui rend les groupes parlementaires finalement assez importants quand même, parce que du coup il y a une forme de travail d'équipe qui s'instaure, et pas simplement un travail solitaire d'un député qui aurait de bonnes idées d'amendement, mais bon, il ne peut pas les porter tout seul, il faut qu'il ait un peu de soutien, il faut éventuellement qu'il y ait quelqu'un qui le présente à sa place, parce que ce n'est pas dans la bonne commission où il est, etc. etc. Donc il y a vraiment besoin de un travail du parlementaire et de son équipe, mais aussi un travail avec le reste du groupe et de ses collègues. Ouais.
Du coup, ça c'est à l'échelle d'un texte, mais les textes que tu en parlais sont extrêmement nombreux, donc ça en plus ça peut avoir un impact. Comment toi tu perçois peut-être le terme ne se veut pas péjoratif, mais presque du service rendu, tiens, tu me soutiens sur ce texte, je vais te soutenir sur l'autre, il y a ces rapports-là, et ça fait partie un peu de la création sur long terme d'un rapport de force. J'imagine que c'est une réalité du travail parlementaire. Et toi, du coup, tu étais déjà, on va dire à titre personnel, il me semble que tu étais intéressé par les questions du travail parlementaire, et maintenant que tu es passé de l'autre côté des coulisses un petit peu, quelle est sur ta vision du travail, comment ça a pu évoluer, faire évoluer par exemple ta vision du travail parlementaire, si ça l'a changé?
Bon, c'est vrai que bon, j'avais un regard extérieur là-dessus, maintenant que j'ai connu aussi quand je travaillais à la mission Etalab, entre autres quand on a travaillé sur la loi Le Maire, la loi pour une République numérique. Donc on a beaucoup suivi l'avancée de ce texte. Donc là, c'était un texte. C'est vrai que observer de l'extérieur et observer de l'intérieur, c'est pas la même chose. Je découvre surtout le rythme effréné qu'il y a pour travailler sur les textes. L'essentiel des textes aujourd'hui passe en procédure d'urgence. Donc, ça veut dire des délais relativement raccourcis, des allers-retours qui sont moins nombreux, ce genre de choses. Et ça force à aller toujours, toujours plus vite, ce qui, parfois, permet pas de prendre le temps et le recul pour que des textes de loi soient suffisamment, on va dire, soient plus des fondations pour construire des choses sur le long terme, que souvent des replâtrages de textes précédents qui ont été sortis un peu vite aussi. Donc moi, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est d'une fuite en avant dans la quantité de production législative, et puis aussi un peu des textes de circonstances, d'affichage qui sont très discutable. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans des questions politiques, je pense que c'est pas tellement le sujet de Libre à vous, mais voilà, bon, je pense que vous avez sûrement beaucoup discuté de la loi Avia. Plus récemment, là, on a pu discuter, on a été nombreux à discuter de la fameuse application Stop Covid. Bon, voilà, il y a des choses. On sent que c'est pour boucher des choses à court terme, et pas tellement pour construire sur du long terme, malheureusement.
Ouais, je dirais même que c'est complètement le sujet. On est vraiment dans ce qui fait finalement le sang, hein, du travail parlementaire, parce que c'est. Alors il y a toute une logistique, toute une procédure, toute une manière de faire correctement, on va dire, un bon travail législatif, mais ça reste du travail politique. Et bah, tous ces coulisses-là, les rapports de force qu'il peut y avoir derrière, c'est exactement le sujet. Et le fait de passer des lois, parce que clairement, d'un point de vue extérieur, quand on travaille sur ces questions, moi je suis d'accord, on a l'impression que c'est devenu la norme, objectivement. D'ailleurs, les procédures d'urgence qui ont un effet de limiter le nombre d'allers-retours, comme tu disais, et donc la qualité, le nombre de débats, la capacité aussi pour des contributions extérieures de se faire, donc c'est très important. Évidemment, on a parlé de la loi Avia qui mériterait tout un autre sujet, et je pense qu'on en parlera beaucoup la semaine prochaine, puisqu'on parlera justement de la surlégislation, on va dire, d'Internet, parce que la loi Avia, on peut le dire en deux mots, qui est une loi absolument terrifiante, à quel point elle est liberticide. Oui, c'est le sujet. Alors, puisqu'on parle de rapport politique, il y a cette question aussi, qu'on entend souvent, c'est des lobbies, des représentations extérieures qui vont proposer des choses, qui n'est pas forcément d'où l'April fait du travail de lobbying, de relations extérieures, puisqu'elle propose des amendements, mais elle essaie de le faire en transparence et selon ce qu'elle considère être l'intérêt général de son point de vue, selon son éthique. Je pense que c'est pas le sens de toutes les propositions. Comment vous recevez, parce que je me dis que vous recevez énormément de propositions d'amendements, comment ça se passe au sein de votre équipe, comment vous le percevez? Comment vous traitez ces propositions?
Alors, c'est pas forcément sous la forme de propositions d'amendements. Hein. Là, c'est déjà, ça va déjà très très loin. Non, c'est souvent des contacts pour expliquer en fait la problématique de ceci, cela. Vous rendez, par exemple, là, sur la loi pour l'économie circulaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer des lobbies au niveau des fabricants de matériel électronique ou ce genre de choses, qui ont des arguments parfois qui sont tout à fait recevables. Hein, s'il y a pas, c'est pas forcément. Il y a des choses qui peuvent être tout à fait recevables sur le réalisme, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on écrive des textes idéalistes et qui ne puissent pas être applicables. Donc il y a des moments où il faut quand même avoir. Une vue pas trop éloignée de la réalité pour pouvoir faire évoluer réellement les choses et pas simplement avoir des textes de principe finalement inappliqués parce que inapplicables, quoi. Donc bon, c'est toujours intéressant de toute façon d'écouter les différents avis, même si on n'est pas d'accord avec. Et puis bon, faut faire attention, par contre, effectivement, on va dire, de la manipulation, c'est-à-dire de l'information totalement tronquée, partiale, qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Je ne citerai pas de nom, mais un grand réseau social a fait des ateliers pour expliquer aux députés ce qu'était le travail de modération sur un réseau social. Il fallait quand même avoir un peu d'esprit critique pour démonter leur argumentation. Donc il y a un côté parfois manipulatoire de certains lobbies qui peut être assez dangereux, surtout dans des domaines qui ne sont pas vraiment maîtrisés par les députés.
Oui, mais si on va par là, moi j'aurais envie de dire, c'est pas le rôle. J'imagine, je vais me lancer en. J'imagine que tu parles de Facebook, mais ça pourrait être d'autres réseaux. J'imagine que c'est en lien avec la loi Avia, puisque Facebook va être amené à jouer le rôle de l'État, en fait, de la justice, et de décider ce qui va relever d'une parole légitime. Facebook, quelque part, est dans ce rôle. C'est aussi, du coup, je me lance aux députés. Justement, c'est tout ça aussi le travail législatif. Aux députés et à leurs équipes, d'être capable d'avoir l'esprit critique et le recul sur les informations qu'ils vont recevoir pour pouvoir intelligemment construire la loi. Malheureusement, sur certaines prises de parole de certains, voilà, de certains députés, mais de tout banc confondu, on se demande où est parfois ce recul critique, qu'on voit qu'il suffit de dire, voilà, bien sûr, on est tous contre la haine en ligne pour continuer à parler de la même loi. Mais voilà, les enjeux sont quand même bien plus complexes que simplement mettre à la charge de Facebook. Ça, je pense que l'enjeu est difficile à trancher. Il est un peu, peut-être qu'il faut éviter de peut-être uniquement blâmer l'acteur privé, mais peut-être l'esprit critique et la capacité d'analyse des équipes législatives.
Oui, là, je parlais d'un lobbying qui tient plus, dans certains cas, d'une forme de manipulation que d'une claire information des parlementaires. Qu'un lobby explique quel problème ça va causer, et etc., etc., c'est une chose. Quand les informations qui sont données sont fausses, ça pose d'autres questions. Voilà, c'est juste ça que je voulais signaler, et je n'ai pas dit de qui je parlais.
Non, je me suis permis d'imaginer, tu vois, voilà, de tirer mes propres conclusions, mais je ne mets pas les mots dans la bouche. Je pense qu'il pourrait être intéressant qu'on évoque ensuite, peut-être, quels sont les outils pour justement permettre un travail informé, notamment que ce soit au moment de la commission, en amont, en amont de l'hémicycle, pour avoir à permettre aux parlementaires d'avoir des votes informés. Mais peut-être qu'on va faire une petite pause musicale avant pour s'aérer un peu, s'aérer la tête. Et je vous propose d'écouter Waiting for Nothing par The Fisherman. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, 93.fm, La Voix des Possibles.
Cause Commune, 93.1.
Walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing, this is really something. I'm telling you one thing, I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by, they're always running but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Sitting behind a cloud, a strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing, this is really something. I'm telling you one thing, I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. From me, I guess it's sad, but it had to be. I hope she knows her. I will always love her. I'm telling you one thing, I'm waiting for nothing.
Nous venons d'écouter Waiting for Nothing par The Fisherman, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. Alors, comme la pause précédente, hein, il s'agit d'un morceau que nous avons découvert grâce au site auboutdufil.com, qui en plus donne tout un panel d'informations, enfin tout un tas d'informations historiques sur les groupes. On peut que vous inviter à découvrir ce auboutdufil.com, et vous retrouverez bien sûr les références sur le site april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France, et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge d'affaires public pour l'April, et nous discutons avec Christian Quest, collaborateur parlementaire de la députée Paula Forteza, de l'envers du décor du travail parlementaire. Voilà, n'hésitez pas à participer à notre conversation via le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc Christian, ouais, on discutait un petit peu, de, notamment là, je me posais la question, comment, donc il y a beaucoup d'informations, potentiellement tentatives de manipulation, mais je pense que c'est un peu le jeu politique aussi. Comment les parlementaires et les équipes parlementaires font le tri de ça? Quels outils sont à leur disposition pour avoir un aspect informé individuellement, mais aussi collectivement, tant que, au sein de la commission, des groupes politiques, etc.
Alors, bon, il n'y a pas vraiment d'outils. Il y a des outils mis en place par l'Assemblée pour gérer les textes, c'est-à-dire pour proposer des amendements et ce genre de choses. Par contre, des outils pour travailler de façon collaborative sur les textes, c'est pas quelque chose qui a l'air d'être très développé. Alors, évidemment, je connais pas le fonctionnement de tous les groupes, de tous les partis qui peuvent avoir des modes assez différents. Ouais, je suis dans un passage particulier. Il y a un nouveau groupe qui a été créé avec comme coprésidente Paula Forteza, et donc je suis impliqué pour donner un coup de main, pour proposer des outils pour qu'il y ait un travail collaboratif un peu plus efficace qui se mette en place. Donc on est en train de réfléchir à certains outils pour aider les parlementaires à faire le travail législatif un petit peu autrement et d'une façon je peux pas dire plus moderne, mais sortir des simples outils bureautiques qui sont très très utilisés mais qui sont pas forcément ce qu'il y a de plus efficace pour suivre tout un projet, quoi.
Alors, j'ai peut-être mal pas ma question, mais tu abordes quelque chose de très intéressant. Effectivement, les outils collaboratifs, et on nous vend beaucoup, la Startup Nation, et même sans rentrer dans ce terme péjoratif, on a des outils à notre disposition qui doivent permettre la meilleure collaboration. Quand je parlais d'outils, je pensais par exemple, on a des, sans aller jusqu'à la commission d'enquête, mais c'est vrai qu'on voit parfois quand on suit des auditions d'experts, etc. Donc, par exemple, vous pouvez demander à certaines auditions, je crois que c'est plutôt les groupes qui vont pouvoir demander des auditions, comment ça se passe? Par exemple, comment un réseau social, quel qu'il soit, peut venir au sein du Parlement proposer les informations qui manipuleraient pour aller à ses fins?
Je ne comprends pas très bien ta question, je suis désolé.
On sait qu'il y a des auditions en amont de certains textes, on va chercher à avoir, pour avoir de l'information, on va faire venir des experts. Donc, qui peut-être, comment on décide qui on invite, comment est-ce que ça se met en place, ça. Donc je pense que c'est au niveau de la commission, des commissions plutôt, qui vont avoir cette forme. Et puis tu nous disais par exemple qu'il va y avoir des entités privées, donc un réseau social qui vont, au sein de l'Assemblée, proposer des conférences ou des choses pour proposer leurs informations, leur vérité, mais ça, elles sont dans leur rôle. Et ça aussi, comment ça se met en place, mais peut-être que tu ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça.
Pour les commissions, pour les auditions et tout ça, il y a des listes de gens qui sont proposés. Alors, je ne connais pas le mécanisme précis. Donc, il y a en général le président et les rapporteurs de la commission qui gèrent un petit peu l'agenda des auditions qui vont être faites. Il y a des personnes qui sont sélectionnées pour être entendues sur tel ou tel sujet. Je ne sais pas s'il y a des mécanismes pour que des personnes se proposent pour être entendues. Ça, je peux pas vraiment dire. Je vois aussi sur le chat que parfois il y a des huis clos en commission. Oui, c'est possible. Il y a certaines commissions qui sont pas totalement ouvertes. Bon, il y a des raisons qui peuvent se comprendre, d'autres où ça peut être un peu plus compliqué. Je pense par exemple à la commission de la défense, ça peut se comprendre que tout ne soit pas sur la place publique. Pour d'autres commissions, bon, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça permet aussi parfois de libérer la parole des gens qui vont être auditionnés. Le fait de savoir que c'est à huis clos, ils peuvent s'exprimer plus librement. Donc, c'est pas forcément négatif.
Ouais, mais ça, je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. Après, on pourrait dire tout est transparent et tout le public, en fait, devrait pouvoir suivre et avoir un débat complètement informé. Je pense que c'est un débat qui est important. On pourra d'ailleurs, je pense qu'on avait parlé avec Regards Citoyens quand ils étaient intervenus. Moi, je soulevais aussi cette question-là, puisqu'on parlait de la potentiellement influence extérieure, et l'APRI, par exemple, parfois peut proposer sur des textes. On va prendre contact avec des parlementaires pour proposer aussi nos argumentaires, notre point de vue. La question est de le faire en transparence, et c'est tout l'enjeu aussi pour des rapports de force, pas pour une structure comme l'April, d'avoir un historique, d'avoir un certain nombre, plus de 4000 membres, etc., pour arriver avec un poids politique. Donc là, je pense qu'il y a des arbitrages aussi qui vont le faire. On sait que les groupes politiques vont négocier peut-être aussi entre elles. Et d'ailleurs, tu parlais des groupes là, dans les outils de collaboration. Le temps avance, et je pense que c'est un sujet qui est intéressant, notamment parce que Paula Forteza était avant dans le groupe majoritaire LREM, et elle a créé un groupe. Et on sait que les groupes politiques sont une instance extrêmement importante dans le travail parlementaire. Donc toi, tu as été finalement aussi collaborateur d'une députée LREM et maintenant d'une députée de l'opposition. Voilà, comment tu perçois ce changement? Quelle est l'importance pour toi? Voilà, des groupes. Excuse-moi, je bafouille, donc je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Pour moi, pour mon travail, ça n'a pas changé grand-chose. Je continue à faire de la veille et du conseil sur les sujets numériques, et puis d'entretenir toute une partie d'outils et d'infrastructures. Donc, si tu veux, quel que soit le parti auquel elle est rattachée, ça change pas grand-chose pour moi. Il y a juste peut-être plus de possibilités aujourd'hui d'être entendu au niveau du groupe, certes beaucoup plus petit. Il y a ça, il y a beaucoup plus de choses à construire avec ce groupe tout nouveau, tout frais. Donc voilà, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, de partir, pas d'une feuille blanche, mais il y a quand même beaucoup de choses encore à écrire dans ce groupe, sur la façon de fonctionner, sur les outils. Moi, j'essaye d'apporter mes connaissances. Je ne cherche pas à imposer. Hein. Je pense que c'est un peu la règle avec le libre. Hein. Il faut arriver à convaincre et pas à forcer les gens à basculer. Donc, en leur montrant que oui, on peut utiliser autre chose que Google Docs. Ça se fait petit à petit, quoi.
Moi, on a vu notamment, j'ai trouvé assez significatif là, sur le en discussion générale là, sur Stop Covid, donc une application, on peut dire beaucoup de mal, hein, dans les liberticides et intrusives, et qu'elle pose finalement s'oppose à l'éthique du libre en étant vraiment dans un rapport, je pense, de surveillance. Enfin bon, c'est pas le sujet. En tout cas, Paula Forteza a pris plutôt bonne, hein, d'ailleurs, et j'ai senti du moins, on la sent plus libérée dans sa parole. Est-ce que d'un point de vue d'un regard extérieur que tu as peut-être eu avant de travailler là-dedans, on voit la discipline du groupe majoritaire qui impose finalement, qui limite la capacité de sortir du sentier prévu. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as vu qu'il y avait effectivement une discipline de groupe forte ou pas dans le sens majoritaire?
C'est sûr qu'à partir du moment où on est dans un groupe, il y a aussi un fonctionnement du groupe, des règles du groupe, des rapports de force qui font qu'on a un petit peu moins de qu'il faut faire des compromis, qu'il faut Mais bon, je pense que même au sein d'une association, on retrouve la même chose. On peut pas vraiment faire les choses tout seul, on a besoin d'être ensemble pour porter certains sujets un peu plus loin. Donc voilà. Alors après, quand on se sent plus bien avec le fonctionnement d'un groupe, ben oui, on prend ses distances, on forque, voilà, et puis on essaye de faire un petit peu autrement. C'est, on le connaît bien dans le livre, hein, tout ça. Hein.
Et c'est vrai qu'on parle des groupes, et il faut dire que les groupes, être dans un groupe est extrêmement important pour un député ou une députée, c'est-à-dire que ça, hors groupe, on a beaucoup moins de temps de parole, on a beaucoup moins de capacité de poser des questions, que ce soit écrites orales, le dépôt, proposition de texte sont beaucoup plus difficiles. On voit aussi l'importance, mais quelque part aussi normal, de devoir créer finalement des compromis avec d'autres personnes pour avoir un groupe. Mais on sait, être dans un groupe est très important, et le risque d'être exclu d'un groupe est aussi plus que une réalité politique pour les parlementaires.
Oui, c'est sûr. Il y a une chose qui est importante à l'Assemblée, c'est le règlement de l'Assemblée, qui est un beau pavé. Il y a quand même pas mal de pages dedans. Et il y a beaucoup de choses qu'un député ne peut pas faire seul, ne peut pas faire directement, mais ne peut faire qu'à travers son groupe parlementaire, ou bien il n'y a que le groupe parlementaire qui peut le faire, et pas un député tout seul. Donc, être non inscrit, c'est-à-dire dans aucun groupe, ben c'est d'une certaine façon une liberté totale, si on regarde un côté de la pièce, mais de l'autre côté, c'est moins de possibilités parce que justement, on est dans aucun groupe. Donc, c'est il y a des avantages, des inconvénients, les députés qui sont non inscrits, qui sont dans aucun groupe, sont quand même très très peu nombreux, et c'est pas pour rien. Donc il y a beaucoup plus de possibilités quand on est à l'intérieur d'un groupe, et quand il y a un certain nombre de députés qui sont non inscrits ou qui souhaitent un peu changer les choses, voilà, ils se reconstituent sous forme d'un groupe. Là, on a vu en 10 jours qu'on en a eu deux nouveaux qui sont créés, le 9e et le 10e groupe. Donc voilà, il y a de temps en temps des changements comme ça. Ouais.
Alors, je vois qu'heureusement le temps nous échappe un peu. Alors, il y a des questions qui ont été posées, mais je pense que si on refait un sujet, on pourrait les aborder. Bah, merci beaucoup, Christian. Sauf si tu as peut-être un dernier mot que tu aurais aimé partager. Sinon, je te souhaite une bonne après-midi. Mais je vais pas te censurer.
Alors, je vois quand même des questions là. Je vais essayer de répondre très rapidement. Écrire aux députés, ça marche. Oui, ils reçoivent les mails, ils les lisent. Ensuite, répondre systématiquement à tout le monde, on essaye tous de le faire. Après, il faut voir la quantité. Soit on renvoie malheureusement un mail un peu générique et pas forcément avec un suivi, ce qu'on essaye d'éviter. Mais quand vous recevez beaucoup, beaucoup de messages, c'est effectivement compliqué. Donc voilà, c'est pas parfait. On essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours parfait. Hein.
Oui, ça reste des humains qui reçoivent les informations. Christian, vraiment merci d'avoir passé ce temps avec nous. Je te souhaite une très bonne fin de journée, et puis à bientôt.
Ben oui, puis je reviendrai pour d'autres sujets. On parlait d'archives de logiciels avant. Je sais pas si tu es au courant, moi je m'occupe d'archiver l'open data, donc voilà, c'est peut-être un autre sujet.
Rendez-vous est pris. On va se faire une petite pause musicale avant de passer à notre dernier sujet. Nous allons donc écouter la valse des vieux sabots par les Bretons de l'Est. On se retrouve donc juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM.
Cause Commune 93.1. Thank you.
venons d'écouter La Fête des Vieux Sabots par les Bretons de l'Est, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Alors je vois que le temps file, donc nous allons passer tout de suite au sujet suivant. Nous allons donc prendre des nouvelles de Laurent Tsi, qui est vice-président de l'April, responsable du groupe Libre Association. Bonjour Laurent.
Bonjour à vous toutes et tous, je ne sais pas si vous m'entendez.
Parfaitement. Des soucis...
Bon, super, très bien.
Parfait, alors, comme pour le premier sujet, là, l'objet un petit peu de notre chance, c'est de prendre des nouvelles par rapport à toi, tes prismes, tes occupations. Comment ça va pour toi? Comment s'est passé ces périodes de confinement d'un point de vue associatif à travers l'April et puis finalement?
Alors professionnellement et personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir me confiner en région avec une maison et un jardin, donc ça a sans doute pas été le cas de tout le monde, donc je dirais que le confinement a été sans doute moins pénible pour moi que pour d'autres personnes qui étaient contraintes de rester dans des appartements et sans capacité de pouvoir bénéficier de la nature autour, quoi. Donc ça c'est plutôt une chance. En termes de rythme de travail, ça n'a pas changé grand chose parce que je dirais que la fédération dans laquelle je travaille était préparée majoritairement, on va dire, à travailler en télétravail. Donc en termes de rythme de travail, ça n'a pas changé grand chose, c'est juste le cadre qui a changé, mais qui est quand même pas négligeable. Donc on a beaucoup télétravaillé, le rythme a très très peu changé, quoi.
Tu parlais de fondation, c'est intéressant je pense aussi. Donc les MJC, alors est-ce que tu peux nous dire ce que sont les MJC et,
Ce sont les Maisons des Jeunes et de la Culture. C'est une fédération qui est née après la guerre, au sortir de la guerre, en 1945-48. Enfin, je vous épargne l'histoire dans le détail, mais voilà, c'est issu de la suite de la guerre et qui avait pour objet d'avoir des équipements dans les quartiers. Enfin, alors pas forcément dans les quartiers en particulier au départ, mais en tout cas d'avoir des équipements pour pouvoir au départ occuper les jeunes. C'était ça la grande préoccupation du gouvernement à l'époque, mais en tout cas l'idée c'était quand même de doter les territoires d'équipements pour que les jeunes puissent avoir des activités, être accompagnés, formés, etc., quoi. Donc c'est une fédération d'éducation populaire, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que l'idée c'est quand même de rendre les gens capables et autonomes. Donc les jeunes en particulier, mais après évidemment le projet c'est élargi, et puis c'est bien une logique intergénérationnelle qui est poussée dans tous les projets des MJC sur les territoires, quoi. Voilà.
On peut voir l'importance de tout ça dans une période comme celle que nous traversons. Puisque avançons donc. Alors tu es membre du groupe Libre Association, on sait que tu as un rapport donc qui va défendre l'intérêt du logiciel libre auprès des associations. Tu travailles beaucoup avec dans le milieu associatif. C'est vraiment, il me semble, quelque chose qui te tient beaucoup à cœur.
Oui, c'est tout ce lien-là entre l'éducation populaire et puis le logiciel libre qui me paraît une évidence depuis très très longtemps. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours questionné, intéressé. C'est vrai que j'ai toujours essayé d'œuvrer au sein de l'April, dans le groupe Libre Association, pour essayer d'augmenter les liens qui pouvaient exister entre l'univers libriste, on va dire, et puis le milieu associatif. Alors de fait, on constate que dans les associations, il y a des militants sur les territoires, dans les fédérations d'éducation populaire diverses, hein, toutes les autres fédérations. On trouve toujours des gens passionnés qui ont aussi compris que l'éducation populaire et le logiciel libre avait à travailler ensemble parce que la convergence de valeurs était forte. Mais après, c'est vrai que pour réussir à passer le cap, à mettre en œuvre, ça reste très compliqué parce que, en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, ces questions-là n'étaient pas traitées politiquement au sein des conseils d'administration. Et c'était systématiquement renvoyé comme question technique, donc qui ne concerne pas le conseil d'administration. Or fondamentalement c'est une erreur. Il commence à y avoir des prises de conscience, hein, il commence à y avoir depuis effectivement Snowden, depuis les enjeux, depuis le RGPD, ça s'accélère un peu, et les associations comprennent qu'il y a aussi des enjeux sur ce plan-là. Mais c'est vrai qu'au départ c'était extrêmement compliqué de faire entendre l'importance de penser son informatique, voilà, dans le milieu associatif.
RGPD, donc référentiel général des protections des données. Et c'est vrai que c'est un enjeu, mais on voit donc c'est très vrai dans le milieu associatif qui en plus généralement défend une certaine éthique. Et en fait, nous politiser finalement le rapport aux outils techniques, c'est aussi au cœur de notre combat. Donc toute la pertinence de ton action au sein de l'April de ce point de vue. Ouais. Alors Puisque aussi une question à un angle qu'on voulait aborder, donc toi tu travailles beaucoup avec les associations. Pour les associations, on imagine bien que toute la difficulté qu'a pu représenter cette période-là, alors chacune avec leur spécificité, toute cette période de confinement, et comment les outils, certains outils, alors c'est tout des outils libres notamment ont été mis à disposition par des associations comme l'April, Framasoft, etc., à travers le collectif Chaton. On vous renverra vers les liens pour ce qu'on en parlait au sein de Libre à vous. Voilà, comment toi tu as perçu ça? Comment tu as pu voir que les associations ont pu et ont dû s'adapter au confinement?
Alors il y a plusieurs échelles en fait, hein. C'est important de considérer les échelles. C'est vrai que par exemple si je pars du territoire du local, une MJC elle est sur un territoire qui en général permet systématiquement la rencontre physique. Et c'est vrai que du coup le travail à distance c'est pas quelque chose qui est dans les gènes parce que il y en a pas un besoin fort quoi. Bien sûr on peut coproduire des documents, organiser une réunion prendre une date de réunion à distance, etc. Mais fondamentalement, la logique d'une association de ce type-là, comme une maison de quartier, comme un centre social, c'est bien d'être au contact avec les habitants, les adhérents. Donc, c'est vrai que quand il a fallu être confiné, garder du contact, il a fallu se mettre un peu en ordre de bataille par rapport à tous les outils qui permettaient de le faire. Alors, de fait, un des premiers outils, ça a quand même été le téléphone, hein, pour rester en contact avec les adhérents, avec les personnes qui pourraient avoir des difficultés, les personnes âgées qui devaient faire les courses, etc. Donc, il y a eu plein de petites choses comme ça qui se sont mises en place, et évidemment tous les outils de contact à distance, le mail, ont été amplifiés, ont permis de continuer à entretenir le lien. Voilà, c'est entre autres ce qui s'est passé au local. Après, pour l'échelle en réseau, quand on est plus loin dans la logique fédérale, on est un peu plus équipé normalement pour pouvoir travailler avec des outils déjà en place quoi. Donc c'est vrai que on n'était pas complètement préparé, mais en tout cas je dirais que l'infrastructure principale elle était posée pour qu'on puisse continuer à travailler. Il a fallu faire quelques petits réglages, ça a permis de passer en production un peu rapidement des serveurs qui étaient en train d'être installés pour tester, pour pouvoir soutenir les habitudes de travail quoi. Voilà, donc faut bien considérer les niveaux de cette manière-là.
Très intéressant, ouais. Est-ce que tu as un point, un bilan que tu tires justement de cette période-là, ou un autre point que tu souhaiterais évoquer avant qu'on touche déjà presque à la fin de l'émission?
Je sais pas. Alors, je peux peut-être en profiter pour peut-être lancer un sujet qu'on aura dans l'émission dans les semaines ou les mois à venir, qui sera l'outil Why You Know Host, qui est justement un serveur qui peut être installé assez facilement et qui permet de déployer plein de petits services. Et du coup, moi, j'ai expérimenté ça. Alors, vraiment à titre expérimental, mais ça a aidé un peu pendant le confinement. Et on peut installer très très rapidement un pad, donc avoir son propre pad, gérer ses propres pads, installer l'équivalent d'un serveur Framateam. Alors je sais plus sur quel logiciel c'est appuyé, mais voilà, il y a la capacité d'installer assez simplement un serveur. Il faut quelques compétences. Je suis pas informaticien, mais effectivement j'ai acquis de la compétence au fil des années. Mais voilà, on essaiera d'ouvrir une émission sur ce sujet-là, parce que je pense que pour la décentralisation et puis le sujet que vous avez déjà abordé autour des chatons, c'est quand même une voie extrêmement intéressante pour les associations qui souhaitent prendre en main un peu leurs données et les maîtriser quoi.
Tout à fait, c'était très clair et vivement finalement la réalisation.
Ouais, je sais pas combien de temps il nous reste, hein, mais Bénéva Libre continue d'être utilisé, déployé, expérimenté par les associations. Voilà.
Alors du coup, nous dire en quelques mots, c'est que Bénéva Libre, puisque tu le mentionnes.
Oui, c'est un logiciel libre qui permet de faciliter la valorisation du bénévolat dans les associations. Le CRAJEP, alors Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire de Bourgogne-Franche-Comté, a porté le projet, a réuni les financements et a permis de financer la SIC CLIS 21 pour le développement de cet outil qui est désormais opérationnel sur bénévalibre.org. Sur leur lancée à titre complètement autonome, on peut même signaler que CLIS 21 a développé un logiciel qui s'appelle J'ai voté, qui permet maintenant aussi de faciliter les votes à distance pour les associations. C'est pareil, c'était un outil qui était franchement franchement bienvenu. Alors il est au tout début de son exploitation, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site de CLIS21 cet outil-là qui pourra peut-être vous aider pour votre CA, votre prochain AG ou vos prochains CA à distance si vous n'avez pas encore la possibilité de les organiser en présentiel, quoi. Et peut-être pour être complémentaire du présentiel.
Parfait, bon, on mettra le lien en site, puis le lien pardon, sur notre site, et puis tu soulèves une question qui va nous intéresser dans nos annonces. Un grand merci Laurent, désolé pour ce temps court, mais en tout cas un grand merci pour ces différentes informations, c'était un plaisir de t'avoir.
Pas de soucis, merci à vous tous, au revoir.
Bonne fin de journée.
Ciao.
Et donc l'émission touche à sa fin, alors comme je vous disais, quelques annonces rapides. Laurent parlait d'Assemblée Générale, celle de l'April qui avait été reportée du fait du confinement. Une nouvelle date a été posée, il s'agit donc l'Assemblée Générale de l'April aura lieu le 27 juin à 14h, à distance, et a priori nous utiliserons le logiciel libre de visioconférence Big Blue Button. Par ailleurs, le groupe de travail Traduction de la philosophie GNU a publié en ligne la traduction de deux nouveaux textes de Richard Stallman, une sur les vidéos, la mise en vidéo en ligne, pardon, et sur le fait de dire non à l'informatique injuste, même une seule fois, et dire que cela aide. Voilà, donc l'émission touche à sa fin, je remercie les personnes qui ont participé, Nicolas Dandrimont, Christian Quest, Laurent Costi, au malais de la régie aujourd'hui, William Agasvari. Merci également à Sylvain Kotzmann, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Et Frédéric Couchet, délégué général de l'April et principal artisan de Libre à vous. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles. Voilà, qu'on a pu citer pendant l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, les points d'amélioration. Voilà, toutes vos remarques sont les bienvenues. Libre à vous, april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 9 juin 2020 à 15h30. Nous tenterons de répondre à la question que les adversaires des libertés informatiques aiment poser. Internet est-elle une zone de non-droit ? Plutôt qu'aiment affirmer. Et nous aurons donc l'honneur de recevoir Marc Ress, rédacteur en chef de Nice Impact, et Christiane Ferralchou, l'avocate spécialisée dans les droits des nouvelles technologies et présidente du Conseil national des barreaux. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 9 juin, et d'ici là, portez-vous bien.